La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Ginsburg Gingras. Surmontez vos dettes. Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Ginsburg Gingras. GinsburgGingras.com/dette.
Dans Bouchard en parle, voici Pierre-Yves McSween.
Bon matin, Pierre-Yves.
Salut, Sylvain.
Alors, évidemment qu'on veut pas donner de trucs, mais ta chronique s'appelle aujourd'hui « Comment frauder une entreprise ».
Oui.
Alors, on veut pas que ça arrive, mais tu t'inspires d'une histoire réelle au CHUM dont on a parlé un peu ce matin.
Oui, dans le fond, il y a une fraude au CHUM, puis je me dis « Tiens, voici une bonne journée pour expliquer aux propriétaires d'entreprise, aux gestionnaires d'entreprise, aux employés, comment les gens fraudent, donc comment les détecter. Mais pour détecter une fraude et pour la prévenir, faut que tu connaisses la recette de la fraude. Tu sais, pour savoir si t'as un bon pâté chinois, faut que tu saches dire steak, blé d'Inde, patate. Donc, comment frauder? Voici des étapes faciles. Donc, premièrement, une mauvaise séparation des tâches, un classique. T'es une petite entreprise, t'es un travailleur autonome, puis toute ta gestion se fait par une ou deux personnes. Et la personne qui crée les fournisseurs dans le système, c'est aussi la personne qui enregistre les transactions, puis qui fait les chèques. Donc, elle peut créer un faux fournisseur.
Ah, ben oui.
Enregistrer la transaction dans le système comptable et faire le paiement. Et comme le, tu sais, sur des milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars, tu t'en rends pas compte, voire des millions, ça passe. Donc, ça, c'est un truc. Tu sais, imaginez 5 paiements de 987,34 dans des millions de budgets comme au CHUM. C'est sûr que personne s'en rend compte. Deuxième point. Création de faux fournisseurs avec des noms ressemblants. Je te donne un exemple. T'es le CHUM puis tu dis, tiens, on va payer ABC Laboratoire. Mais la personne au système comptable dit, tiens, je vais créer un fournisseur qui s'appelle ABC Laboratoire Solution. Quand la personne vient pour approuver le chèque, elle se rend pas compte qu'il est marqué ABC Laboratoire Solution, elle pense que c'est le même, fait le chèque, ou bien elle se rend pas compte que la facture, il y a une petite différence, donc, dans l'adresse, ou peu importe. Dans le fond, finalement, on fait un chèque à quelqu'un d'autre. Parce qu'il se peut aussi que ton chèque soit falsifié par des contrebandiers, tu sais, il y a des gens là qui font des chèques normaux dans une entreprise de 50 000 puis sont normales avec un vrai fournisseur. Le chèque est intercepté par le crime organisé, il est modifié et il est encaissé dans un autre compte. On a déjà vu ça. Collusion. Il y a rien qui survit à collusion. Et je te donne un exemple de collusion, c'est quand deux employés font des tâches qui peuvent pas aller ensemble. Donc on donne ça à deux employés pour s'assurer qu'il n'y a pas de fraude, mais que les deux employés s'entendent.
Ouais.
Tu sais, comme dans ce cas-ci, il semble qu'il y ait beaucoup de membres de la même famille qui se sont entendus, mais prends par exemple, toi puis moi, on va manger à la cafétéria. Puis là, on est deux dans le système comptable. Je dis, hey Sylvain, toi puis moi, imagine-moi, mettons, je faisais ça, là. Puis toi, tu faisais ça, là.
Ouais,
puis ton ça plus mon ça, hein, on pourrait sortir des milliers de dollars d'ici. Hein? Hey, on le fera pas, mais ça serait drôle. Hein? Puis là, toi, tu me réponds, non, on le fera pas, mais mettons que ça m'arrangerait. Puis là, paf, c'est le même que ça peut arriver, tu comprends. C'est peut-être pas comme ça, là. Parce qu'évidemment, si tu essaies ça avec un collègue de travail, il se peut que ton collègue te dénonce. Mais, ça se peut. 4. Frauder des petits montants à la fois sous le radar. Tu sais, mettons que l'autorisation des chèques à la comptabilité, c'est deux signatures à 3 000 piastres, puis c'est le président à 10 000, peu importe. Mais qu'en bas de 3 000 piastres, tu sais, les contrôles sont plus faibles. Ben, tu fais des factures de 2456, tu sais. De 2823, tout en dessous du chiffre.
Ça passe sous le radar.
Ça, on appelle ça comme les fractionnements de contrats au gouvernement. Quand la limite est 25 000, tu fais deux contrats de 12 500. Le laxisme, le manque de rigueur, puis on teste le système. Tu te rends compte que ton boss, c'est un chercheur. Là, il a pas vraiment le temps, il approuve ça vite. Puis là, tu fais une petite fraude. C'est détecté, tu dis, ah, c'est une erreur, je me suis trompé. Là. Si jamais pas détecté, t'en fais un autre, puis 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 un autre. Et là, tu te rends compte que le système n'est pas efficace. Et là, tu y vas pendant une décennie, tu fraudes un peu jusqu'à temps que tu accumules plus qu'un million. Évidemment, c'était pas fraudé dans la vie, là. On a toujours dit ça en comptabilité. Les gens qui fraudent, faut qu'ils fraudent solide. Parce que si tu fais pogner, là, t'as plus de vie. T'sais. Donc, t'es mieux d'avoir un méchant paquet de motons de coller. Tu sais, que t'ailles me porter ça dans un autre pays puis tu fasses à croire que t'as un cancer ailleurs. Tu comprends? Je parle pas du Dr. Porter. La confiance. Le pire ennemi de l'entrepreneur. Moi, il y a des gens qui me parlent, qui font confiance aveuglément à du monde. J'ai des gens qui m'ont dit, ah, moi, je gère telle personne, telle affaire. Je t'attends une minute, là. Puis t'as vu ça dans le passé, les artistes se faire frauder, là. Ils confient leur comptabilité, leur paiement. Les factures se rendent chez leur agent ou leur comptable. T'sais, ils ont même plus une vue sur leurs affaires. Première chose que t'apprends, sont lavés. Pourquoi? Ils ont fait confiance. Moi, il y a une personne qui m'a dit, hey, donne-moi ça. Je dis, je peux pas te le donner. Pourquoi? Je te fais confiance, mais je te trosse pas. En fait, tu peux faire confiance à quelqu'un, mais il peut te frauder mécaniquement. Faut pas que tu lui laisses la chance. Donc, même si la personne t'a connaît, c'est ton beau-frère, ta belle-sœur, je connais un gars, là, qui, il se demande s'il se fait frauder par son beau-frère depuis 10 ans. parce qu'ils ont une business ensemble. Son beau-frère a tout géré de A à Z depuis 10 ans. Puis à chaque mois, il demande de rentrer de l'argent dans la compagnie, même s'ils font de l'argent, puis il comprend rien. Un signataire sur les chèques. Mettons là que tu vas aller plus vite, tu dis, ah, pour les chèques, le signe d'un chèque, ça va aller plus vite. Si vous avez des montants significatifs, mettez deux signataires. Ayez toujours le dernier mot sur le paiement. Au moins, vous aurez une vérification. Il y a un contrôle moral. Tu sais, des fois, c'est ton père, ton frère, tu lui fais confiance. Attention. La fraude de salaire. Hey, la fraude de salaire. Quand j'étais auditeur externe, on faisait des tests sur les salaires. Pourquoi? Ben, c'est un employé qui peut créer un faux employé. Tu sais, tu peux créer un Sylvain de la Bouchardière. Mettons. Oui. Puis là, tu fais une vraie adresse avec une vraie feuille de temps falsifiée, puis à chaque semaine, ça passe dans le système de paye, puis ça rentre dans ton deuxième compte de banque, puis t'es payé chaque semaine. Comment détecter toutes ces fraudes-là? Ben, tu vérifies tes affaires, tu vérifies les chèques, tu vérifies les états de compte, tu fais des tests, t'appelles, t'envoies des lettres à des fournisseurs qui te semblent suspicieux pour dire « Hey, merci de faire affaire avec nous. » Si la personne te rappelle, dit « Hey, je fais pas affaire avec vous, moi. » C'est un bon exemple. Et surtout, si votre employé d'administration prend jamais de vacances, tu sais, jamais là. Puis quand tu prends des vacances, c'est 2-3 jours, puis c'est jamais en se faisant remplacer. Soyez suspicieux.
On peut-tu regarder le train de vie également?
Oui.
Souvent, là, t'as un employé qui gagne 30-40 000, puis je sais pas, moi, tu regardes son train de vie, automobile, maison, voyage, ça marche pas, c'est pas tout des gagnants à l'auto.
Oui, mais là, si les fraudeurs sont brillants, parce que les fraudeurs, faut se le dire, hein, c'est des whites.
Ouais, s'ils sont brillants, ils vont faire attention, mais il y en a plusieurs qu'on a pognés comme ça, là.
Oui,
en raison d'un train de vie trop élevé.
Tu sais, il y avait un gars qui avait fraudé un moment donné que j'avais rencontré, tu sais. 2 ans avant, il nous pavoise, il y avait une Cadillac 1939. Après ça, 2 ans après, il était dans les journaux. Pourquoi? Le gars, il vivait un train de vie princier. Il avait fait une collusion, justement. C'était un gars responsable d'un chantier. Il a fait collusion avec quelqu'un d'autre et ces deux personnes-là s'étaient graissées. Mais en te graissant comme ça, en faisant une collusion, mais en faisant l'étalement de ta richesse, c'est là que tu te fais poigner. C'est le narcissisme qui, des fois, fait saisir les gens.
T'sais. Et moi, j'ai une autre solution, je te la partage.
Vas-y.
L'imputabilité. C'est-à-dire que lorsque tu sais, t'as donné plein de trucs, il faut que les gens watch, il faut que les gens surveillent, etc., plein de trucs, là. Mais si le fraudeur, lui, va s'essayer. Si la personne qui est chargée de contrôler et de surveiller, comme dans l'exemple du CHUM, là, c'est une fraude qui a duré 14 ans pour plus d'un million. Les personnes qui sont chargées, notamment au niveau de l'État, de gérer notre argent, devraient être imputables. S'il y a eu une fraude, la personne qui, admettons qu'il y en a, là, je parle plus de CHUM, admettons que des gens se sont fermés les yeux ou ont fait preuve de laxisme, ces gens-là doivent payer. Dans une compagnie privée, c'est déjà comme ça. Compagnie privée, c'est le même.
Le problème d'un centre de recherche, c'est que les gestionnaires, souvent d'un laboratoire, tu sais, c'est un médecin, là. Tu veux le médecin faire de la recherche? Puis là, tu lui donnes la responsabilité de checker le budget, parce que c'est lui qui comprend ce qui se fait.
Ça devrait
en même temps, la personne, c'est peut-être pas son intérêt premier. Donc, tu sais, il y a la compétence, il y a l'intérêt, il y a le laxisme. Là, tu mets un médecin compétent dehors dans une recherche parce que il y a eu un laxisme au niveau du contrôle financier dans son département.
Non, mais ça, admettons que c'est une compagnie privée. C'est ma compagnie, c'est mon argent. Je me suis fait frauder pour plus d'un million pendant 14 ans. Tu peux-tu être certain que le comptable et une couple d'autres sont dehors aussi? Il n'y a pas juste le fraudeur dehors. Tous ceux qui étaient, alors que dans l'État québécois, c'est pas comme ça. Au gouvernement, l'imputabilité n'existe pas. La fraudeuse, dans ce cas-ci, elle va se ramasser peut-être en prison, je sais pas trop. Mais ceux qui géraient et qui étaient mandatés de surveiller, t'auras même pas, ils auront, j'en suis convaincu, là, à moins que ça soit une exception, ils auront rien.
Mais tu sais, Sylvain, imagine, 1 million quelques à 4 personnes sur des années. Je peux-tu te faire un autre commentaire?
Vas-y.
Ça valait pas la peine. T'as rendu compte? Toute ta réputation d'un 4 personnes.
Ouais,
pour même, tu sais, c'est pas assez. Tu sais, c'était pour frauder.
Ben,
là.
Ça dépend. C'est ce qu'on a. T'as peu. Ça, c'est ce qu'on a su.
Ouais.
Il est fort possible que ça soit plus
mais
que ça.
Il y a une enquête de la SQ. Il faut faire attention, là. Sur des budgets de recherche, sur des salaires, à un moment donné, il retombe à tout ce qui était approuvé. Mais t'as raison. Il peut y en avoir un peu plus, un peu moins. Mais, tu sais, on est loin de d'autres qui sont vraiment multimillionnaires grâce à la fraude. Ici, on a 4 personnes dont la réputation est terminée. Pour avoir eu un train de vie plus élevé pendant une décennie, est-ce que ça valait vraiment la peine? La réponse, c'est non. Frauder, ça détruit ta réputation. Et donc,
mais
si on tu fais pas un montant mirobolant.
T'es en train de nous dire le crime ne paie pas, ça vaut pas la peine. Je te suis sur le fond, t'as entièrement
mais
raison.
Le crime paye s'il paye vraiment.
Attends un peu. T'sais. Quand on aura la sentence, on s'en reparlera. Parce qu'on est au Québec. Check bien ça, là. Elle va aller broyer, petite sentence bonbon, elle va pogner 2 ans, elle va faire 3 mois. Là, tu vas calculer son 3 mois en dedans versus le million qu'elle a fait. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui diraient « Donne-moi ça 1 million, m'en aller faire 3 ans, m'en aller faire 3 mois dedans, moi. »
Off the record, je dirais pas non. Oui. Mais mettons que tu étais le maire d'une ville au nord de Montréal.
Oui.
Puis tu as fraudé pendant 30 ans. Mettons.
Oui. Oui.
Puis que tu fais tellement peu de prison que j'ai même pas eu le temps de me rendre compte que t'es rentré puis t'es sorti.
Oui.
Puis t'as eu un train de vie princier de, je sais pas moi, de 40 à 70 ans. T'as raison, honnête.
C'est ça.
Je parle d'un cas, là, que...
Ouais, ouais, écoute,
je donne un exemple au fictif, là, tu sais. C'est sûr que, comme on dirait, la sentence est dure à l'avaler. Mais bon.
Parce que moi, je suis convaincu que si on faisait un sondage un matin parmi nos auditeurs, honnêtement, il faut jamais faire le crime, même le plus petit, pour des raisons morales. Mais mettons qu'on fait abstraction de la morale, je suis convaincu que dans nos auditeurs, il y en a que pour $1 million, ils iraient faire 3 mois en dedans, là.
Ah, moi, sérieux, Sylvain, je pense que je suis pas bien fait dans la vie, je dormirais tellement mal.
Non, moi non plus. Hein, moi, là, en prison, puis tout, là, ça a quand même un impact. Ce que je te dis, c'est que pour certaines personnes, $1 million, ça vaut 3 mois de prison, parce que je suis convaincu que cette fraudeuse-là ne fera jamais plus que ça.
Quand j'étais petit, je vais au dépanneur Jérôme à Valleyfield, au coin de la rue. Ouais. Je rentre, puis ma mère me donne 5$ pour acheter 3 sacs de lait, parce qu'à l'époque, on pouvait avoir 3 sacs de lait pour 20, pour 5$. J'arrive avec mon 5$ dans mes poches, je prends 3 sacs de lait, là, je suis dans l'une, je sors, je m'en vais dans la rue, je me rends chez nous. Là, je me rends compte que je suis parti sans payer. Sylvain, ça m'a pris une semaine à m'en remettre. Je suis allé reporter l'argent, j'ai payé tout. Mais, comme petit gars, j'étais même pas capable de voler un sac de lait. Mais ça, involontairement.
Il l'a pas. Merci, Pierre-Yves.
Salut.
Salut, 7h38. Je ferai le sondage parmi les auditeurs. Okay, c'est une fraude d'1 million. Ça se passe au CHUM, Centre de recherche à Montréal. Je pense que la fraudeuse va avoir... ça, c'est mon avis, là, puis garde, je connais la justice, la jurisprudence un peu, là, je lance pas ça de même. À mon avis, si elle pogne 2 ans, ce serait le gros max, elle va faire 3-4 mois.
OK, Sylvain, c'est quoi ton prix? Combien tu volerais, là, pour que ça vaille la peine, là?
Mettons qu'on prend un montant nettement exagéré. Pour 10 millions de dollars, je serais prêt à faire 3 mois dedans. Attends un peu. Abstraction faite de la morale. T'as parlé de la fibre morale tantôt, les sentiments. Admettons que j'en ai pas. Ah, pour bien moins que ça.
Trois mois, un million. T'aimes trop ton emploi aussi. T'es trop bon dans ce que tu fais, puis t'aimes trop ton emploi. Merci. Pour faire ça, parce que tu pourrais pas être animateur de radio.
Salut. 7h38, les auditeurs sur 25226, prononcez-vous. Je vous donne 1 million, mais vous devez faire 3 mois de prison. Oui? Ou non.
La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Ginsburg Gingras. Surmontez vos dettes. Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Ginsburg Gingras. GingsburgGingras.com/dette.